Bonsoir et bienvenue à tous pour ce nouveau podcast. Ce podcast numéro 2 sera consacré à Amityville, la maison de l'horreur. Vous avez déjà certainement entendu parler de cette histoire, de par ses films ou ses livres. Avant de rentrer dans cette histoire, rentrer dans le vif du sujet, qui est une histoire tirée de faits réels, qui a inspiré le film, les films Amityville, je vais d'abord vous lire le synopsis de Stuart Rosenberg, le film qui a été créé en 1979. Amityville, le 13 novembre 1974, dans une petite maison bourgeoise, un jeune homme, dans un accès de colère, de démence, massacre ses parents, ses frères et ses sœurs. Il se réveille à 3h du matin, entend des voix qui lui disent de tuer sa famille. Quelque temps plus tard, cette maison est mise en vente à un prix défiant toute concurrence. La famille Lutz l'achète sans en connaître la tragédie qui s'y déroule. Derrière le film d'Amityville, La Maison de l'Horreur, qui en a fait trembler certainement plus d'un, se cache une véritable histoire sanglante et particulièrement étrange. C'est dans la nuit du 13 novembre 1974, à 3h du matin, que le fils aîné de la famille Tefeo, Ronald Jr., âgé de 23 ans, assassine à coups ses parents, ses deux sœurs et ses deux frères. Il épargnera le chien de la famille. Il sera démontré que les coups de fusil pouvaient être entendus à 5 pâtés de maison. Pourtant, aucun des voisins n'a entendu les coups de feu. Par contre, plusieurs témoignages diront avoir entendu le chien aboyer. Étrange. À 18h30, ce même jour, Ronald Jr. débarque au Henry's Bar, tout proche, en criant « Je crois qu'on a assassiné ma famille ». Il y aura des versions contradictoires. Selon l'enquête de police, les parents auraient été assassinés en premier. Pour expliquer le fait que les enfants n'aient pas été réveillés par les coups de feu, les policiers ont conclu que Ronald Jr. avait monté le son de la télévision. C'est un peu tiré par les cheveux. Du moins, je trouve. Votre avis. La police arrête donc le fils aîné, qui va donner plusieurs versions différentes, avant de finalement reconnaître les crimes. Il mentionne aussi qu'il n'était pas seul, ayant pu compter sur deux amis et sa sœur Dawn, et que c'est elle qui a tué les enfants. Mais qui l'a tué elle alors? Dans une autre version, il racontera avoir entendu des voix, dont celle de Dieu, lui ordonnant de tuer sa famille. La police découvre que Ronald Jr. est loin d'être un ange. Grand consommateur de drogue, il se disputait, parfois même à coups de poing, avec son père. La maison est-elle possédée? Durant le procès, les résultats des autopsies démontrent que les victimes n'ont pas été droguées avant les meurtres. L'avocat de Ronald Tefeo Jr. demande alors la tenue d'une enquête dans la maison pour prouver qu'une puissance aurait été influée à son client. L'avocat pense qu'il y aurait des champs électromagnétiques ou des forces telluriques qui, je cite, « auraient déséquilibré les cellules et la santé mentale de son client ». Il fait même intervenir Hans Holzer, chercheur dans le paranormal, pour confirmer ses dires. Le jury n'achète pas cette théorie et le condamne à 6 peines de 25 ans de prison. Nous allons parler maintenant des nouveaux propriétaires, après la mise en vente de cette maison, après le drame qui s'y est produit. Cette maison qui a été mise en vente reste inoccupée pendant plusieurs mois. On se demande pourquoi d'ailleurs. Plusieurs acheteurs potentiels reculent, ne voulant pas vivre dans une maison où il y a eu un massacre, ce qui peut se comprendre entre nous. Quant aux autres, il la pense hantée. Il pense que le massacre qui a eu lieu à Amityville est le fait de forces occultes, du diable, de démons. Les deux lucarnes de devant sont même vues par certains comme les yeux du diable. La maison est très vite associée à celle du diable, à l'antre de Belzébuth, de Satan. Le 112 Ocean Avenue est finalement vendu un an plus tard à la famille Lutz et leurs trois enfants, âgés de 10 ans, 7 ans et 5 ans. Cathy, 30 ans, et Georges, 28 ans, étaient au courant du passé de la maison. Lors de la visite, rien ne se produit, rien d'étrange. C'est donc pour cela qu'ils vont acheter la maison, car ils ne croient pas aux histoires de Satan, de maisons possédées ou de maisons hantées. Et le massacre qui s'y est passé n'a pas l'air de les déranger plus que ça. Le jour de l'emménagement, ils font quand même bénir, par sécurité, la maison et le prêtre leur conseille de ne pas utiliser une des pièces sous les toits. Le père Ray aurait entendu une voix lui disant de partir et aurait même reçu une gifle. C'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à se rendre compte que la maison n'est pas celle qu'ils pensaient avoir achetée. La famille découvre un peu plus tard une pièce dans la cave qui, elle, ne figure pas sur les plans. Les murs sont peints en rouge et le chien de la famille refuse obstinément d'y entrer. Peu après Noël, se produisent quelque chose d'étrange, comme des bruits de pas, des odeurs fétides, des craquements. Pour le moment, la famille ne se doute de rien. Tout ça est largement explicable. Les craquements et les bruits de pas peuvent être expliqués par le bois qui craque, car cette maison n'est plus tout jeune. Les odeurs fétides peuvent être liées à la pourriture du bois ou à ce massacre, au corps qui laisse une odeur imprégnante dans la maison. Cathy, la mère des enfants, la femme de Georges, fait des cauchemars sur la famille de Deféo plusieurs fois la nuit. Elle commence à être agitée, à mal dormir. Georges, quant à lui, se réveille tous les matins entre 3h et 3h30, qui, je vous le rappelle, est l'heure du crime, l'heure du massacre. C'est à cette heure-ci que Ronald Jr. s'est réveillé et a tué toute sa famille. Leur petite fille de 5 ans aurait eu une amie imaginaire qui lui dit que jamais ils ne partiront de cette maison. Nous savons bien que les enfants au jeune âge peuvent avoir des amis imaginaires. Ils s'inventent des amis pour ne pas se sentir seuls. Et ça pourrait être expliqué lors d'un déménagement comme ceci. Nous arrivons dans une ville où nous ne connaissons personne. Tout ça reste explicable pour l'instant. C'est lors d'une seule nuit que tout va commencer à dégénérer dans cette maison. Une nuit infernale. La nuit du 14 janvier 1976. C'est lors de cette nuit que les meubles se mettent à bouger. Les portes et les fenêtres claquent. Des bruits étranges montent de la cave. La famille n'est pas rassurée. Elle ne dort plus. Georges voit sa femme léviter. Et lorsqu'elle le regarde, son visage se transforme en celle d'une vieille femme. Il n'y a mieux comme réveil. La famille part en pleine nuit, emmenant simplement leur chien et laissant tout le reste dans la maison. Jamais, ils n'ont dérogé de leur version. Plusieurs années après cette version, ils n'ont jamais changé. Pour eux, tout s'est réellement passé. Plus tard, des membres de la Société de recherche psychique de la Nouvelle-Angleterre ont mené des expériences sur place et plusieurs membres ont eu des malaises et ont assisté à quelques manifestations. Parmi les propriétaires suivants, aucun n'a rapporté de manifestation étrange. Cependant, il n'y a eu jamais de propriétaire pendant plus de 10 ans. Alors, il y a eu de nombreux divorces, une mort par overdose, et on dit même qu'une des victimes du 11 septembre 2001 aurait vécu dans cette maison. De là à voir une manifestation du mal, on peut tous se faire notre propre interprétation. L'histoire d'Amityville est assez étrange. Beaucoup diront que ce sont des mensonges, qu'il s'agit d'une histoire montée de toutes pièces. La maison a pris énormément de valeur après le film. Elle s'est vendue à 850 000 dollars. Des experts du paranormal sont venus enquêter. Certains disent que cette maison n'est qu'une supercherie, d'autres disent y avoir vécu des choses étranges, angoissantes. D'autres parlent de manipulation. Certaines personnes ayant visité la maison disent que que c'est tout ce récit autour de cette maison qui fait qu'elle est si angoissante. Les films et la publicité qu'elle a eue peuvent laisser penser à ce genre de choses. Néanmoins, les propriétaires Lutz, eux, n'ont jamais dérogé à leur version, je le rappelle. Pour eux, tout ce qu'ils ont vécu est vrai, réel. Ce n'est pas de l'imaginaire pour eux. Malgré cette histoire un peu déroutante, où on fait son propre avis sur cette histoire, est-ce réel? Est-ce que tous les événements racontés se sont vraiment passés? Ou est-ce juste une hallucination collective? Ou une grande imagination? Voyons ça comme nous voulons. Mais c'est en 2020, cette année, qu'il s'est passé quelque chose d'étrange et d'horrible. Rien à voir en soi avec le paranormal, mais ça a redonné un petit coup d'étrange à la ville d'Amityville. Cette histoire s'est passée le 21 mai 2020 dernier. C'est l'histoire de Thomas Cully Powers, âgé de 39 ans. C'est un jeune homme qui a poignardé son père, Dwight Powers, âgé de 72 ans. Les faits se sont passés vers 18h sur la plateforme Zoom, devant une vingtaine de personnes. C'est le moment qu'a choisi son fils pour tuer son père. Thomas Cully Power a d'abord tabassé son père à mort avant d'aller chercher un couteau pour le frapper à la poitrine, au dos et au cou. Les coups l'ont presque décapité. C'est au moment où il est revenu avec le couteau que les participants de Zoom ont contacté les urgences et avaient compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Ce qui est choquant dans cette histoire, qui est tout à fait terrible, mais rien de paranormal, c'est que les participants ont assisté en direct au meurtre de cet homme. Pour terminer, je dirais que cette histoire d'Amityville peut laisser dubitatif quant au récit de certaines familles, de certains enquêteurs. Pour moi, ce n'est que mon propre avis, il a pu se passer certaines choses, peut-être amplifiées ou non. Peut-être que la famille Lutz avait une appréhension, qu'ils ne se l'ont pas l'avoué, qu'ils n'osaient pas se l'avouer eux-mêmes, en pensant que cette maison était hantée, même s'ils pensaient le contraire. Peut-être que la tuerie qui s'est passée avant était juste le résultat d'un homme déséquilibré, drogué, perdu, avec des problèmes mentaux. Même si à l'époque, il n'a jamais été diagnostiqué. C'est une histoire assez intéressante, effrayante. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous la raconter aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bonne soirée.